Bonjour, c'est Doria Tillier.
Bonjour, c'est Philippe Catherine.
Vous écoutez Pop Pop Pop.
Eh bien, ça va être une aventure, je crois, incroyable. Quelle sera l'issue? Elle est inconnue. Alors, bonne chance à tous et à toutes. Pop Pop Pop,
c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Je ne crois pas que ce genre de choses se fête, enfin je l'espère, mais au mois d'août ce sera le 50e anniversaire du massacre de Sharon Tate et de ses amis, jeune actrice que l'on venait de découvrir dans le bal des vampires de Roman Polanski qui s'était empressé de l'épouser. Le responsable de cette tuerie, le célébrissime Charles Manson, à la vie stupéfiante, remplie de stupéfiants et dont l'écho lugubre ne cesse de résonner depuis dans la pop culture. Des ectolithes d'encre ont été utilisés pour compter ces terrifiants exploits. Des docs lui ont été consacrés, des chansons l'ont évoqué, des films ont raconté le chaos qu'il a créé. Son histoire diffractée s'est immiscée dans les moindres replis de la pop culture, et cela pour une raison qui dépasse de très loin le simple cas Manson, puisqu'il s'agit à travers lui du mythe américain de la perte de l'innocence à la fin de la fameuse décennie des 60s qui pourtant, avec l'assassinat de Kennedy et la guerre du Vietnam, avait plus que sérieusement écorné le dit mythe. Sensationnalisme mis à part, qu'est-ce que nous raconte 50 ans après l'épopée sinistre de celui qu'on désignait comme l'incarnation du diable? Pourquoi Tarantino lui consacre-t-il son prochain nom? Qu'est-ce que l'intéressé a à en dire à travers ce récit posthume traduit par Laurence Romance? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Charles Manson, pardon, Laurence Romance est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Laurence Romance.
Bonjour, je ne suis pas Charlie.
Non, j'espère. Ça fait beaucoup de questions. Vous vous sentez de répondre à tout ça?
Absolument.
Vous
oui.
êtes prête?
Bon, j'assume.
On va y venir dans quelques instants et pour m'accompagner pendant cette pop-heure, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour.
Vous acceptez
Bonjour
cette
Charline.
Mission?
Bonjour Laurence.
Vous acceptez cette mission?
Oui, toujours. Toujours bien. Prête comme les scouts.
Alors, synchronisation de montre, comme disait Parker Lewis. Voilà, au menu également de Pop Pop.
Vous êtes plutôt Parker ou Mickey?
Mickey, moi. Okay. Au menu également de Pop Pop Pop, mais oui, on va parler du festival du film de fesses, un festival bien assis depuis déjà 6 ans. On en parlera tout à l'heure avec Anastasia Rachman, sa cofondatrice. Mais avant ça, Laurence Romance, ici, il existe une question. Une question encore plus chaude que la réplique du film Maîtresse particulière dont on ne se lasse jamais ici.
En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
Ah, mais ça donne le ton, oui. C'est très bien.
Cette
bravo,
question...
bravo Antoine.
C'est pas moi. Et cette
si, question...
Non, c'est pas moi. Et cette question, c'est... Laurence Romance, pour vous, c'est quoi la pop culture? Attendez, parce que, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses charlatives, mansoniennes, californicatives, ou même tarantinesques, et parmi mes préférées, il y a celle de Katsuni.
La pop culture, c'est l'art de la société de consommation. Et ça n'a rien de péjoratif quand je dis ça. Ce sont toutes nos références, que ce soit cinématographiques, musicales, publicitaires, qui participent à notre identité, avec lesquelles on grandit, avec lesquelles on se construit et grâce auxquelles on communique. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas vu telle série, tel film, si on ne connaît pas tel chanteur, on s'isole. Donc c'est une magnifique, une très belle manière en fait de communiquer et de vivre en société.
Bien, voilà pour Katsuni.
Alors,
ou plutôt
Charline et Antoine,
Céline
Tran. J'adhère à fond. À ce qu'a dit Katsuni. Ah,
vous
merci
pas
Katsuni.
Vous en tirer comme ça. Non, non.
Comme ça.
Non, Laurence Romance, c'est quoi pour vous, la pop culture?
Eh bien, tout ce qui est nouveau et intéressant, pour reprendre la formule de Jean-François Bizeau dans Actuel. Mmh. Ou même tout ce qui n'est pas nouveau, mais qui reste quand même intéressant, comme Charles Manson.
Très bien, ça me convient. Charline?
Parfaitement.
Ok, ben c'est validé. Donc l'émission démarre officiellement.
Ah d'accord, ok.
Alors,
c'est n'attendez plus que moi.
Cette pop, cette culture et cette pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après 1917, c'est un morceau de The Good, The Bad and The Queen.
My heart is heavy.
1917, c'est un morceau signé du groupe The Good, The Bad and The Queen, un groupe réunissant Damon Albarn, Paul Simonon et Tony Allen, notamment Laurence Romance. Petite réaction, certes vous êtes traductrice de la vie de Charles Manson, mais par ailleurs critique émérite.
Oui, j'aime bien, ouais. C'est très cool. Ouais.
J'aime bien, c'est très cool. Bah voilà, hein, là je sens des années de métier là. Hein. Là, je sens l'expérience, je sens la...
Non, pour le reste, il faut me payer, quoi.
Ah, d'accord, ok.
Si je dois écrire une chronique.
Vous écoutez Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec une invitée qui a passé quelques mois de sa vie en compagnie du redoutable Charles Manson. Sortons d'une telle expérience comme si l'on avait écrit la biographie de Mimi Mati. Réponse avec le pop portrait de notre invité. Alors oui, un pop portrait, ben, c'est son portrait, mais... Et c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, une invitée que l'on imagine aisément se présenter, point levé, mais à la différence d'Amel Bent, index et auriculaire tendu avec ceci en fond sonore. Ou alors, éventuellement, sans les doigts, sur ça. Puisqu'entre autres activités, notre invité a fait vibrer des générations entières d'amateurs de gros sons électriques avec Metal Express et Rock Express. Pas un coup d'essai, puisque notre invité fait aussi partie des plumes marquantes et érudites ayant raconté et infiltré pour Best, pour Libé, pour Les Inrock, pour Rolling Stone, le rock, mais aussi la pop, la rave et, je cite, la littérature décadente. C'est aussi notre invité qui a mis en place la collection Extrême chez Austral, qui compte parmi ses publications la première bio officielle de Nirvana, approuvée par Cobain de son vivant, Nirvana, l'ultime biographie de Michael Azered. Et c'est d'ailleurs aussi notre invité qui a traduit le journal de Kurt Cobain. C'est aujourd'hui l'un des plus célèbres commanditaires de meurtres qui l'amène ici, Charles Manson, et déjà on frémit.
Je suis passé du côté obscur de la force.
Mais oui, je vois, Laurence, mais ça ne répond pas à ma question. Sortons intact d'une telle promiscuité avec un personnage aussi dangereux et sulfureux.
Eh bien oui, parce que le personnage en question se fout dedans presque à chaque page. Mmh. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a recueilli ses confessions. C'est un ex-compagnon de...
Un ex-co-détenu. Ouais.
Voilà, exactement. Ouais. Et mais évidemment, Manson ne voulait pas du tout le faire pour avec une option morale et tout, pour servir la société et tout ça. Mais il voulait le faire pour donner son point de vue. Et il faut ajouter qu'à l'époque, en fait, il avait encore un petit espoir d'être libéré sous conditionnel. Donc, il essaye de se présenter sous son meilleur jour, mais ça marche pas. Mm-hmm. Parce que quand même, son fond mauvais ressort presque à chaque page. Et c'est amusant, ça m'a passionné d'habitude, la traduction, c'est un truc plutôt suant, franchement, faut le dire. Et là, c'était passionnant, parce que d'une page à l'autre, le type se contredit. D'un côté, il dit, oui, on va aller dans le pays, on va aller sous le désert, il y a toute une ville, un monde magique, etc. Et de l'autre côté, de la page suivante, littéralement, il dit, non, si j'ai dit ça, c'est vraiment que je suis un mauvais communicant, et puis, etc. Enfin bon, il essaye de s'en tirer, quoi.
On va en parler dans le détail, là. Laurence, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme disait Charles Manson, commençons avec votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Laurence Romance, pour le livre, vous avez choisi Last Exit to Brooklyn d'Hubert Selby Jr., paru en 64, un livre qui a valu à son auteur un procès pour obscénité. Charline, figurez-vous que Selby a littéralement fasciné toute ma génération. Celle qui nous écoute ne sait en revanche peut-être pas de quoi parle Selby dans ce livre.
Oh bah si, quand même, Antoine.
Ah bon ? Voilà. Rappelez-nous.
De travestis, de prostituées.
Ah, c'est ça, un portrait de groupe formé de marginaux, de paumés, de prostituées, de mauvais garçons sur fond d'alcool, de sexe et de violence. Un livre que Selby définit comme, je cite, les horreurs d'une vie sans amour.
Bien. Laurence, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Avec plaisir. 24 disques dans le jukebox. Ils pouvaient en avoir 12 de leur choix, mais les autres, c'était pour les clients de la base. Si quelqu'un jouait un disque de Lefty Frazel ou un autre bouseux, il se mettait à gémir, à faire des gestes avec les mains. Non mais putain, quel ringard! Et sortait dans la rue. Cette fois, comme deux gosses collaient des pièces dans le bastringue, ils s'installèrent, adossés au réverbère ou appuyés contre les ailes des bagnoles. C'était une nuit tiède et claire et ils tournaient en rond, traînant le pied droit avec lenteur dans le déhanchement du danseur de Kotsari. C'est quoi ça? La clope pendant au bec, le col du polo relevé sur la nuque, rabattu et roulé par devant. Ah non, c'est magnifique.
Alors, énorme succès au moment de sa sortie, hein, ce Last Exit to Brooklyn.
Eh oui.
Condamné pour obscénité.
Défendu par Anthony Burgess en Angleterre, condamné pour obscénité en Angleterre, procès défendu par Samuel Beckett, Anthony Burgess, entre autres, et interdit en Italie, je crois. 2 à 3 millions de ventes, et ensuite...
Ardemment défendu par Bayon en France, on s'en souvient.
Oui, et donc je profite de cette occasion pour remercier infiniment Bruno Bayon, ainsi que Olivier Cohen, des éditions de l'Olivier, parce que j'ai connu Selby. J'ai connu Cubby, je l'ai fréquenté. En fait, Bayon me le refilait quand il venait à Paris et qu'il fallait distraire Selby, donc je l'emmenais dans des musées, tout ça, machin, etc. Ouais. Cubby, donc j'ai eu une relation personnelle avec lui, ce que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas travaillé à Libé. Voilà. J'ai été envoyée sur le tournage de Last Exit to Brooklyn avec Selby et sa maman. Ce qui était absolument incroyable, parce que sa maman était sur le set et elle voyait des scènes où il y avait des flics qui intervenaient et tout. Elle donnait son avis. Elle devait avoir plus de 90 ans. Elle disait, ça va pas du tout là, parce que les flics, en vrai, c'est pas ça. Ils viennent jamais. Ils viennent après, une fois que la baston est finie. Ils viennent jamais. Et on a gardé une relation, et donc, non, franchement, je suis une super chanceuse d'avoir eu cette relation.
Et lisez tout, Last Exit to Brooklyn, si ce n'est déjà fait. Pour le film, vous avez choisi L'Exorciste, un film réalisé par William Friedkin, sorti en 1974. Et c'est amusant parce que figurez-vous que Charline, depuis qu'elle me connaît, en tous les cas, arrive parfaitement à faire pivoter sa tête à 360 degrés, comme dans le film.
Hein, on veut voir.
Et vous voulez le langage qui va avec ou pas? C'est les histoires de...
Oui, non, également.
Non, c'est pas le jour.
Également.
C'est donc un film sur une petite fille drôlement souple, mais drôlement mal polie aussi, et aux pratiques religieuses très singulières. Elle s'appelle Regan, elle a 12 ans, elle souffre d'inquiétants troubles du comportement. Après de nombreux examens médicaux, sa mère, Chris, sollicite l'aide d'un jeune prêtre psychiatre, le père Carras, qui lui apprend que la jeune fille est possédée par le diable. Ambiance.
Un bon moment de détente. Alors, sur la musique de Mike Oldfield, expliquez-nous ce choix, Laurence Romance.
Eh ben, j'avais peur de choisir L'Exorciste à cause de la musique de Mike Oldfield, déjà, parce que je voulais éviter. Mais bon, mais quand même, il faut être honnête, quoi. Si j'avais mis Psycho, j'aurais pas été honnête. Donc, en fait, L'Exorciste, c'est parce que j'étais... C'est aussi parce qu'à l'époque, j'étais ouvreuse dans un cinéma. Et que c'est pas à la sortie du film, hein, j'étais trop petite, mais c'est à une ressortie, une reprise, une rediffusion. Non, mais ça c'est pour la télé. Dans les années 80, et comme j'étais ouvreuse, j'avais assisté à la toute première séance du mercredi midi, genre qui commence à midi. J'étais toute seule dans la salle et j'ai eu la trouille de ma vie, franchement.
Donc, jamais remis de ça.
C'est difficilement. Non, mais ça commence. Franchement, on sait pas où on est et tout, parce que ça commence en Irak ou je ne sais quoi et tout, et après, bon. Donc, malgré Michael Field et non grâce à L'Exorciste reste
d'accord, bon, enfin,
le truc qui m'a le plus foutu les jetons.
Charles Manson, L'Exorciste, on n'est pas un petit peu dans un tropisme assassin, là?
On pourrait s'en approcher, on pourrait s'en approcher, oui.
D'accord, bon. Pour la série, Laurence, vous avez choisi Mindhunter, une série
produite... quoi. j'adore.
Fincher et Charlize Theron, diffusée sur Netflix depuis 2017. Charline, qu'est-ce que c'est?
Holden Ford et Bill Tench sont agents du FBI et ils appliquent à leurs enquêtes des méthodes révolutionnaires pour l'année 1977. Ils sont tout simplement en train d'établir les bases du profilage et la saison 2 arrive en août.
Je m'appelle Bill Tench et voici mon collègue Holden Ford. On travaille pour l'unité des sciences comportementales du FBI. Et dans ce cadre, on interroge des gars comme toi.
Mais si vous allez à Vacaville, il faut vous parler à Ed Kemper. surnommé le tueur d'étudiantes.
Vous croyez que Kemper se confierait à nous?
Il ne s'arrêtera plus.
Et si Shepard découvre, tu vas interroger un tueur, il va piquer une crise.
Il est plus facile de demander le pardon que la permission.
Vous comptez dire et faire tout ce qui vous chante?
On avait décidé que personne ne méritait notre mépris.
Et ce pourri t'a pas fait changer d'avis?
Une grosse romance, qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cette série?
J'adore absolument. Mais déjà, j'ai lu Mindhunter de Douglas, Jack Douglas. Il faut savoir, bon, c'est un mec en vrai, hein, mm-hmm. c'est un type du FBI. Mm-hmm. Il a servi d'inspiration à Jack Crawford dans Le Silence des Agneaux. Mm-hmm. Voilà, il a écrit Mindhunter, le livre, qui a été donc adapté dans la série de David Fincher. Et en fait, ces types étaient des pionniers. Effectivement, c'est eux qui ont défini le profiling. Et en fait, c'était un peu la double peine pour eux à l'époque, parce qu'ils bossaient. Déjà, ils allaient scoltiner des types mm-hmm. pas vraiment super cool comme Ed Kemper, ouais. machin, tout ça.
Je fétichise des chaussures.
Et en plus, de Edgar Hoover, à l'époque, qui était le boss du FBI, et puis ouais. qui leur disait, écoutez, moi, les assassins, moi, je les grille, je les étudie ouais, pas. Ouais. Mais c'est eux qui ont défini les premières catégories, genre tueur organisé, désorganisé et tout. Mm-hmm. L'expert Stéphane Bourgoin, qui est un ami, elle aussi, Stéphane, ouais. dirait mieux que moi. Mais c'est eux qui ont, et alors Jack Douglas, il s'est approché un peu trop près de l'abysse, mmh. et à un moment donné, il a pété un plomb, il a fait ouais. une espèce de malaise et tout.
Et qui arrive dans la saison 2 de Mindhunter?
Charlie Manson.
Ouh.
Et peut-être Charline avant août, hein, parce que j'ai vu une autre source crédible, ou je sais pas, que c'était Anytime Now.
Oh. Oui, parce que Charlize Theron a fait une gaffe à la radio anglaise, en fait. Elle a annoncé que ça arrivait en août, et du coup, je pense que ça accélère
bon, enfin,
possiblement.
Donc il faut être
enfin, c'est bientôt,
c'est
en tout
donc
cas.
Donc Charlie d'arriver.
Alors,
dans la deuxième saison.
Je rajoute un petit peu de sucré dans ce bain de sang, hein, avec la musique.
You're welcome.
Pour terminer cette pop list. Et là, la chanson que vous avez choisie, c'est celle-ci.
Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does. Every time I see your sister,
Little Sister d'Elvis Presley, version de 1961. Le dernier truc qu'il a fait avant de devenir un hamburger, dites-vous?
Pas tout à fait, mais un petit peu, oui. C'était déjà plus Sun, c'était déjà RCA, c'était après le service militaire.
Ouais.
Faut quand même préciser, c'est Doc Pomus et Mort Schumann. Hein.
Mm-hmm,
donc, et puis il y a James Burton, c'est totalement irrésistible. Je ne sais pas qui au monde ne peut pas aimer cette chanson.
Il y a quand même eu le grand comeback en 68.
Oui, ouais. Le comeback cuir, oui.
Ouais, pas mal.
Le comeback
mal.
Cuir était
d'accord.
bien, oui.
Juste avant, vraiment, la période burger.
La période costume aztèque, hamburger et tout.
Ouais, je connais des
mais
fans.
Mais moi, j'aime bien aussi. Oui, je ouais, connais. Ouais. Oui, oui. Mais bon, j'ai voulu m'acheter un jour un costume aztèque à Las Vegas. Et malheureusement, je ne l'ai pas acheté, mais bon, je ne sais pas si j'oserais le porter aujourd'hui.
Alors, je résume Last Exit to Brooklyn, L'Exorciste, Mindhunter et Elvis Presley. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
Little sister, don't you?
Little
sister, don't you?
On travaille pour l'unité des sciences comportementales du FBI.
Ils s'installèrent, adossés au réverbère ou appuyés contre les ailes des...
Oh, qu'est-ce qui se passe?
Et dans ce cadre, on interroge des gars comme toi.
Il ne s'arrêtera plus.
On est bien
je
là.
Quitte ce studio avant que les hommes en blanc n'arrivent.
Je dis qu'on est très bien. Bien, restons dans l'agitation avec un morceau volé par Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, à Charles Manson. Ça s'appelle Never Learn to Be to Love. Les Beach Boys Never Learn Not to Love, c'est un morceau écrit par Charles Manson. Oui, l'abominable Charles Manson, notre sujet du jour dans Pop 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 et dont la vie, traduite par notre invité Laurence Romance, vient d'être publiée chez Séguier. Ça s'appelle Charles Manson par lui-même et c'est basé sur des propos recueillis par Nuel Emmons. Alors d'abord, une précision qui s'impose, Laurence, quand on s'appelle Laurence Romance, est-ce que ça ne veut pas dire pour autant qu'on prend des libertés avec le texte qu'on traduit ?
Le minimum, hein, le minimum de liberté, puisque traduction, c'est trahison, et ça, tout le monde le sait. Mais bon, j'ai essayé d'être le plus fidèle au texte possible, sachant que déjà, le texte lui-même avait essayé d'être... Enfin, Nuel Emmons avait recueilli les propos de Charles Manson dans des conditions pas toujours idéales. Donc il fallait vraiment coller au texte. Alors, je pense qu'on peut dire qu'il y a peut-être 25% d'affabulation dans ce bouquin, n'en reste pas moins que 75%, c'est ce qu'on aura pour définitivement de plus près d'une autobiographie de Charles Manson, puisqu'il est mort.
Mais Laurence, ce texte, c'est donc celui de Nuel Emmons, hein, un confident, co-détenu de Manson. En deux mots, ce Nuel Emmons, c'est un type fiable ou bien comme Manson, à son tour, un manipulateur, à votre avis ?
Non, je pense pas. Nuel Emmons s'était rentré dans le droit chemin, etc. et tout. Il s'était reconverti en journaliste après. Il était en tôle avec Manson pour des délits mineurs, des trucs genre trafic de bagnole, je sais pas quoi. Et je pense qu'on peut faire confiance à Nuel Emmons. À Manson, un chouïa moins, mais comme je répète, c'est du 70-30, quoi. C'est en tout cas tout ce qui existera, puisque Charlie étant mort en novembre 2017, il n'y aura rien de plus. Quoi.
Vous l'appelez Charlie.
Pourquoi pas.
Manson entendait par ce livre faire entendre, je cite, sa vérité, comme si les faits étaient soumis à jugement, comme si on pouvait tordre la réalité. Comment est-ce que vous avez abordé le pavé avec cette optique-là, en fait ? Ça doit être compliqué par moments.
Non, en fait. Quand on traduit, on est fidèle au texte et on se colle au texte. Et on ne voit plus rien d'autre que le texte, essayer de retranscrire le... Bon, pour le reste, ça a été traité. Il y a un avant-propos de
Simon Liberati.
Je ne parle pas de la préface. Je parle de l'avant-propos de l'éditeur qui met dans le contexte, qui dit que ce n'est pas une pièce à ajouter dans le procès, on ne refait pas le procès, etc. Mais
c'est pas une réhabilitation.
On le publie. Il n'y a rien du tout de ce genre. C'est juste un témoignage, et c'est le seul qui existe, de Charles Manson lui-même. Donc moi, tout bêtement, je me suis... attaché à vraiment coller au texte. J'ai des fois mis des notes de bas de page quand c'était évident, quand je trouvais un truc où Charlie avait vraiment déconné et disait n'importe quoi.
Ça s'appelait Charlie.
Oui, pour ma part. On est devenu...
C'est devenu un team.
Ouais, j'aimerais mieux pas trop, quand même.
Mais ce que je veux dire par là, il n'y a aucune angoisse quand on traduit un manipulateur qui se raconte de se sentir manipulé soi-même, en fait.
Non, pas du tout, au contraire, on chope ses manipulations, comme je disais il y a quelques instants, d'une page à l'autre, le mec se contredit, il se fout dedans tout seul en fait, tellement, en fait son fond mauvais ressorti, même quand il essaye de se présenter à son meilleur, il y a toujours son fond mauvais là de sale gamin qui est ressorti, enfin de sale gamin, c'est arrivé à des conclusions terribles, et donc du coup, non.
Mais Laurence, la moindre des manipulations étant de finalement tomber à son tour sous le charme du monstre, parce que c'est bien d'un monstre dont il s'agit, ou pas ?
Oui, la définition que les Américains se font d'un monstre. Oui. Mais ce qui m'a le plus, j'allais dire étonné, mais en fait non, ça m'a pas étonné tant que ça. C'est en fait les propos de Nuel Emmons lui-même quand il dit que Charles Manson, pendant toute sa vie en prison, après les meurtres, donc après l'affaire Sharon Tate et tout, a reçu constamment plus de courriers que n'importe quel prisonnier en Amérique de gens qui voulaient être des membres de la Manson Family qui voulaient lui confier leurs enfants, qui voulaient dégommer quelques pigs, je cite, quelques cochons pour lui. Et ça, c'est vraiment alarmant, quoi. Oui. Ça, c'est vraiment spécial.
Laurence Romance, votre terrain de jeu habituel, c'est la musique, le rock plus que la chanson française labellisée NF. Hein. Et quand on suit l'histoire du rock, à un moment ou à un autre, on croise la route de l'astre noir Manson. Comment ça s'est passé pour vous ? Votre première rencontre avec Manson, enfin rencontre ?
Eh bien, peut-être par Nine Inch Nails, dont le leader Trent Reznor a loué en faisant semblant qu'il avait fait par hasard, qu'il ne savait pas. Mais il avait loué la maison de Sharon Tate au Cello Drive pour enregistrer son album The Downward Spiral. Par ailleurs, il était producteur d'un groupe appelé Marilyn Manson. Donc, je l'avais interviewé à l'époque et il avait tenté de me faire croire que c'était par hasard. Et après, il me dit, et en plus, je produis Marilyn Manson. Je lui ai dit, oui, bon, d'accord, oui. Et donc, mais j'en avais entendu parler avant, évidemment, comme tout le monde, à cause des Beatles, Helter Skelter, etc. Par contre, j'ai découvert plus tard, via mon homme, en fait, Neil Young et son magnifique Revolution Blues. Neil Young étant le premier à avoir, comment dire, tout le monde, après les meurtres, après l'affaire, Manson était un paria total. Faut pas croire que le culte soit né du jour au lendemain. Ça a pris un petit peu de temps. Il a fallu le livre du procureur Vincent Bugliosi, Helter Skelter. Mais Neil Young était à l'époque, entre donc 70 et 74, le seul à reconnaître qu'il avait été fan de Manson. Il avait même essayé de le faire signer sur son label.
Oui, c'était ça. C'était un musicien.
Il le trouvait bon. Il le trouvait très bon.
Et alors, entre Manson et la musique, hein, une de ses premières ambitions, il y a un vrai lien. Les musiciens sans succès sont-ils tous, du coup, des manipulateurs psychopathes en puissance ?
Eh ben heureusement que non, hein, parce que si on aurait beaucoup.
Je pose la question à l'experte. Hein.
Heureusement que non, et j'espère que non. Sinon, il y aurait des massacres, des carnages. Mmh.
Que se passe-t-il quand on passe des mois de sa vie en compagnie intime d'un homme comme Charles Manson, comme vous l'avez fait pour traduire ce livre?
Oula, mais je suis allée sur tous les blogs, il y a plein de trucs sur l'internet, c'est absolument dingue. Il y a des sites très intéressants de gens qui, parce que Manson c'est tellement une histoire multiple, c'est pour ça qu'elle subsiste d'ailleurs, parce que ne nous voilons pas la face, il y a des tas de serial killers. D'ailleurs, lui n'en est pas un. A priori, il a tué personne.
Non, il n'a pas tué.
Il y a des tas de gens, mais 10 fois pire que lui. Mais même dans les sectes, il y a Jim Jones, 900 suicides en Guyane, il y a David Koresh, etc. Et tout. Pourquoi lui? Parce qu'il a tué une culture. Il a tué la hippie culture, enfin, le peace and love, etc. Et tout, l'année de Woodstock, l'année des protestations.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la bascule de la fin des années 60.
Voilà, oui. Lui et Altamont, le concert des Rolling Stones où il y a eu quelqu'un de tué, c'est vraiment la bascule. Donc en lisant, en traduisant, je me renseignais le plus que je pouvais et tout, et donc j'étais pas dupe de ces sortes de tentatives pour apparaître sympathique, mais en même temps, c'est une trajectoire qui ne s'excuse pas, mais qui peut se comprendre. Qui peut se comprendre. C'est ce que j'ai trouvé.
Si, toutefois, difficultés vous avez rencontrées, est-ce qu'elles étaient liées à la forme du récit ou à son contenu ?
Plus à son contenu. Il fallait, des fois, modifier un peu la vérité pour l'arranger. Donc, il fallait un petit peu la rétablir, ce que j'ai fait dans des notes de bas de page. Heureusement, j'ai réussi. Non, Newell et Mons, qui a recueilli les confessions de Charles Manson, j'ai placé toutes les notes de bas de page, donc avec les dates, les choses en indispensables et tout, dans la préface de Newell et Mons et dans sa postface, qui a permis d'alléger le texte lui-même et d'en mettre un minimum, quoi.
C'est un livre assez fascinant à lire. Hein. Assez,
c'est génial.
Terrifiant.
Ouais.
Et en même temps, moi, je l'ai lu comme ça, c'est du Dickens.
C'est
du Dickens sous amphétamine, quoi.
C'est
non, mais s'il n'y avait pas cette fin terrifiante, affreuse, c'est un bouquin très, très, très étonnant que je recommande, parce que je suis encore plongé dedans et j'ai du mal à m'en sortir.
Ah bah, génial, Antoine. Ouais. C'est en 3 parties. Alors, l'éducation d'un hors-la-loi, première partie, donc où il nous raconte, c'est très Dickens, effectivement, comme vous dites. Et ensuite, un cercle unique, donc ça, c'est sa communauté, hippie, machin, etc. Et puis, sans conscience, c'est la 3e partie, c'est comment ça dérape. Quoi.
Ouais.
On peut le croire sincère à certains moments.
Alors, Charles Manson a marqué la pop culture, et le mot est faible. Hein. Notre réalisateur, Ghislain Fontanus, s'est amusé à aller piocher quelques références. Ça va de South Park au jeu GTA 5. Allez, ça donne ça.
Now, what's really crazy is that this house here is Sharon Tate's house.
Je suis Charles Manson.
I can never make it up to the families that I destroyed.
On est puissant.
But at least I'll make an example for anyone else thinking the crime.
And this house looks exactly like the house in real life.
So fuck Charlie Manson. I snatch him out of his truck, hit him with a brick. commencé à mettre notre empreinte sur le monde.
C'est moi, Sharon Tate. Je suis dans le film. Charlie va être dingue de toi.
On aura reconnu au passage Marilyn Manson, Neil Young, Ice Cube, Dr. Dre, South Park, la série Aquarius, le prochain Tarantino. Plus pop, c'est pas possible.
Ben non. Petite anecdote, vite fait en passant, c'est quand Neil Young a présenté la première fois la chanson à ses compères Crosby, Stills et Nash, ils lui ont dit « Arrête, c'est pas marrant du tout, du tout ».
Non, c'est pas marrant.
Ils n'avaient pas foncièrement tort. Ouais. Non.
Mais alors, comment expliquez-vous la fascination qui continue à exercer 50 ans après le massacre de Los Angeles?
Alors déjà, il y en a qui le confondent avec Marilyn Manson. Non, mais sans déconner, parce que quand il est mort en novembre 2017, il y a plein de petits fans efféminés de Marilyn Manson qui ont dit « Ah, c'est tellement malheureux, je m'identifie à toi et grâce à toi, j'avais appris à être moi-même et je pouvais m'habiller comme je le veux, etc. » et tout. Et lui, il a flippé, hein, Marilyn Manson. Il a dit « Non, mais c'est pas moi, c'est l'autre. »
Enfin, c'est lui qui a choisi son pseudo, non plus.
Oui, en plus, oui.
Marilyn
oui,
comme oui, Monroe oui. Et Manson comme voilà. Charles.
Oui. Exact, oui, absolument. Oui. Il a pris, dit-il, les deux emblèmes de l'Amérique. Ouais. Marilyn Monroe et Charles Manson. Ensuite, je reviens toujours à ce que j'ai dit, mais c'est que... Il a fait bien plus que tuer qui que ce soit, il a tué une culture, il a tué une décennie.
C'est un livre absolument passionnant, ça s'appelle « Charles Manson parle lui-même », c'est propos recueillis par Nuel Emmons, traduit excellemment bien par Laurence Romance.
Merci Antoine.
Et c'est disponible chez Séguier. Laurence, vous ne bougez surtout pas, on n'a pas fini. Est-ce que vous savez faire ça?
Je vais essayer. Allez-y. Mais...
Non, pas du tout, non, c'est pour lancer les pop news.
Ça marche mal.
Bientôt les vacances, ça ne vous aura pas échappé. Est-ce pour autant une raison pour ne rien glander? Oh, je ne crois pas. Voici venu le temps des rires, des chants, mais aussi des cahiers de vacances. Et en l'occurrence, pour nous, le cahier de jeu du Burger Quiz. Oui, à nous de relier les points pour découvrir un burger, de jouer à sel ou poivre entre Jean de la Fontaine et Jean de la Foutaise, de trouver le bon chemin pour rassembler 36 frites dans un cornet, ou encore de tenter les mots croisés de Maître Burguello. Alors, le cahier de jeu du Burger Quiz, c'est de 3 à 178 ans. Il est d'ailleurs précisé au-delà, contactez le Guinness Book, et c'est édité chez Michel Lafon.
Un nouveau projet pour Samuel L. Jackson. C'est dans un autre genre de film de super-héros qu'il devrait apparaître puisqu'il tiendra le rôle d'un célèbre musicien, lui. George Clinton dans un film intitulé Spinning Gold et sont également attachés au projet Jason Isaacs, Neil Patrick Harris dans le rôle du manager Bill Aucoin et Jeremy Jordan, essentiellement vu à la télé, devrait incarner Neil Bogart, le fondateur du label Casablanca Records. Début du tournage en juillet.
Brittany Howard en solo, la spectaculaire chanteuse d'Alabama Shakes vient de dévoiler un premier extrait de son futur album, un single intitulé History Repeats. Et History Repeats figurera sur Jamie, le premier album solo de Brittany Howard qui sortira le 20 septembre.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson, ouais. Baby. Eh oui.
Jamais il ne parlerait comme ça, Samuel L. Jackson. Hein.
Merci, Charline. On va parler maintenant de films de fesses dans la suite de Pop 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 avec la cofondatrice du festival du film de fesses, juste après Helter Skelter. C'est un titre dont nous parlions il y a quelques instants. You ain't no
the top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you?
Helter Skelter, version abrégée, c'est extrait du White Album des Beatles, un morceau dont Charles Manson disait qu'il l'avait inspiré. Bien.
Entre autres, merci beaucoup, entre parce autres. Que là, c'est indépassable, Helter Skelter des Beatles.
On est bien d'accord. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Laurence Romance et vient de nous rejoindre la fondatrice du FFF, non pas la Fédération Française de Funk, non le Festival du Film de Fesses. Bonjour Anastasia Rachman.
Bonjour.
Bonjour.
On connaît les films de cul, les films de boules, mais c'est quoi les films de fesses?
C'est sensiblement la même chose.
Ah non, c'est une question de nuance.
En plus ludique, oui. en plus rigolo. Un film de fesses, bah, c'est un film de cinéma. Mmh. Et c'est un film érotique.
Mmh. C'est bien, ouais.
Ok.
Pour faire synthétique.
Bonne définition. C'est une question, en fait, vous savez, que tout le monde se pose depuis que la radio existe. Écoutez cette archive de Jacques Chancel en 75.
Quelle définition donnez-vous à l'érotisme et quelle définition donnez-vous à la pornographie?
Voilà, nous y sommes. Alors, combien? Presque 50 ans plus tard, non? Pas loin. Ça donne quoi? Vous voyez où la nuance, vous?
Pour moi, la frontière, elle est très, très sensible, mm-hmm, entre les deux genres. Au Festival du Film de Fesses, en tout cas, que ce soit porno ou érotisme, à partir du moment où on parle de cinéma et de film, on accueille ça à fesses ouvertes, dans la journée.
C'est la notion de cinéma qui vous semble extrêmement importante, en l'occurrence, dans les films, oui, que vous mettez en avant.
Exactement. Bah, dans Festival du Film de Fesses, il, ouais, y a fesses, mais il, mm-hmm, y a avant tout film. Et c'était aussi l'énergie de départ, quoi, de réunir... voilà, des amis autour d'un projet cinématographique.
Bien, alors à partir de demain et jusqu'à dimanche, à Paris se tient donc la 6e édition du Film de Fesses, un festival dédié au cinéma érotique, comme on vient de le dire, avec l'ambition d'éveiller les consciences et de se questionner sur la sexualité. Érotique donc, et aussi, et pourquoi pas pornographique, hein, la nuance, on vient de le rappeler, est quand même ténue, mais on voit des fesses quand même, on voit l'arrêt.
Oui, on voit des, oui, sifs, on voit des fesses, on
faut
voit
y aller, Antoine,
des boules, on voit des seins.
Mets un point sur sif.
Me refais.
On voit des sifs.
Sif, oui, on voit des sifs.
C'est alors, quoi les sifs, Antoine?
Érotique, comme les enfants qui écoutent.
Sillon interfessier.
Sillon interfessier. Érotique, comme les films cultissimes du dimanche soir d'M6.
J'ai mal, j'ai un petit problème au niveau des cuisses.
Habillez-vous, on va voir ça tout de suite.
D'accord. Je sais pas, ça m'a pris il y a environ 2 jours.
Ça vous tire derrière?
Ça me tire derrière.
Non, parce ah que non là... mais au secours là, laisse tomber là. J'espère qu'on va mettre la barre un peu plus haut.
Non, mais on,
oui voilà, oui, on exactement, oui.
On un peu
plus
beaucoup,
haut, enfin, beaucoup plus haut. Ou plus bas, c'est selon.
Votre but est de montrer que le cinéma érotique peut être intelligent et drôle. D'où vient ce préjugé qui laisse à penser que c'est un cinéma un peu bas du front? Alors peut-être justement des films érotiques façon M6.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, on voulait effectivement redorer le genre érotique, montrer qu'il y avait de beaux films de cinéma, que ce soit dans le patrimoine cinématographique, mais aussi dans voilà, la création actuelle. Mm-hmm. Et donc, mettre en avant des réalisateurs, réalisatrices qui n'étaient pas forcément beaucoup sur le devant de la scène.
Alors, comme qui, par exemple, cette année?
Cette année, bah, je sais pas, on a remialisé Laure Giapiconi. On a Julia Lyon, voilà, des gens qui font à la fois du documentaire, du film d'animation, du film expérimental, des fictions, des films d'images. Enfin, voilà, ça traverse vraiment tous les possibles. Et en plus, avec la rétro cette année, on amène même le genre cinéma bis, cinéma d'horreur, cinéma de vampire.
Est-ce que c'est aussi une forme d'engagement et qui tenterait à prouver qu'il n'y a pas qu'un seul regard quand il est question d'érotisme ou de pornographie? On parle souvent du regard extrêmement masculin, mais qu'il y a d'autres formes de films avec d'autres genres de réalisateurs ou réalisatrices.
Évidemment, oui, il y en a autant qu'il y a de réalisateurs et de réalisatrices et de spectateurs et de spectatrices. Et on s'en rend compte aussi à la sortie des séances. Il y a des gens qui vont être totalement chamboulés par ce qu'ils ont vu et d'autres qui vont dire faut en mettre plus là. C'est pas assez osé. Donc ouais, c'est très subtil, très très intime.
Alors on se romance l'érotisme au cinéma, ça vous chamboule ?
Pas du tout, non, mais moi je suis une grosse fan de John Holmes et aussi de... comment il s'appelle ? Ron Jeremy, il est cool.
Ah, Ron Jeremy,
le gros balèze là.
Très bien,
et j'ai lu un jour dans un truc, dans un bouquin que, en fait, pour les actrices porno, Ron Jeremy, c'était le test. Si elles passaient Ron Jeremy, après elle pouvait tout faire. Ouais, donc Ron Jeremy, il est cool.
Et pour des raisons il est très branché sur lesquelles rock. Je ne m'appesantirai pas ici.
Non, il n'a pas besoin. On va plutôt aller au festival de...
Alors sur l'affiche du FFF, hein, on découvre une voyante qui n'a pas une boule de cristal, mais une paire de fesses sous les yeux. C'est donc plus facile de lire l'avenir dans le cul que dans les boules.
Lire l'avenir dans le boule, ouais.
Non mais il cherche là.
Je pose des questions.
Non, mais c'est une vraie discipline. Hein. Je crois que la mère de Stallone faisait ça.
Oui, elle lit dans la rampologie. Des gens.
Absolument.
La quoi ?
La rampologie, ça s'appelle.
Rampologie. Ah oui, je crois que c'était la rampologie.
C'est lire l'avenir dans les fesses des gens. Non, non.
Vous êtes certaine ?
Bien. Oui, je suis certaine. Bah, Anastasia, j'ai confirme.
Anastasia, vous avez donné votre pop liste des 10 films à voir impérativement. Dans cette liste, il y a Change pas de main. C'est un film réalisé par Paul Vecchiali en 75. Ça risque pas de donner trop chaud parce qu'il y a déjà une petite canicule.
Non. Péter le thermomètre. Ouais, j'adore Paul Vecchiali. J'ai eu la chance de travailler avec lui en plus. C'est que... On a le Festival du film de fesses, mais on a aussi des vrais métiers à côté. Et j'ai eu la chance de distribuer ces films, donc ouais, j'avais envie de lui rendre hommage dans cette liste.
Ah, très cool.
Alors, il y a des films, mais il y a également des lectures érotiques, des conteuses d'histoires, ateliers de broderie animés par la créatrice de la marque La Petite Bite, qui brodera... Mais c'est vrai. Pas du tout. Qui brodera en live des mini-sexes sur des t-shirts. Pourquoi des mini-kikis plutôt que des gros? Quel acteur avez-vous pris pour modèle?
Oh my god!
On lui demandera. Mais on peut aussi tout à fait broder de petites vulves, de grosses vulves, des petits seins, des grosses fesses, il n'y a pas de problème.
Le festival n'est pas sectaire.
D'accord, il est ouvert. Le festival du film de
fesses. Allez-y.
Alors,
il ne faut pas le lancer, Antoine.
Non, arrêtez tout de suite.
Écoutez, c'est un intitulé quand même assez marrant, dans le festival du film de fesses.
Ouais. Je crois que l'éventail toutes les blagues à faire.
Alors, au menu également de ce festival, un concours de t-shirts mouillés. C'est un hommage à Sabrina.
À Bon Jovi.
C'est pour éviter de perdre des spectateurs en route, surtout, et voilà, pour maintenir la mouille voilà, au bon endroit.
Et puis peut-être pour vous adapter à la température, exactement. Parce que vous risquez d'être impacté par les températures.
Alors, j'approuve.
Est-ce que les films érotiques, c'est de la pop culture, selon vous?
Ouais, bien sûr.
Racontez-moi. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça.
Il y a un exemple de film érotique qui se passe
dans les films érotiques qu'on passe, on traverse à travers la trop pleine lune le genre gore, bis, et du coup on présente des films qui sont devenus cultes, quoi. Donc je sais pas, je pense à Frankenhooker où je peux pas dévoiler la carte blanche de Lucille.
Très bon choix, super
Aldilovitch, mais elle présentera elle présentera le film Society qui est aussi un teen movie complètement déjanté. Voilà, pour moi ça fait partie de la pop culture.
Et il y aurait un bon film à faire avec parce que moi je me suis fait suer sur un chapitre et demi entier de Charles Manson et de ses prouesses sexuelles, un petit peu complaisant quand même, ils se vendent vraiment beaucoup, et en fait si quelqu'un, un réalisateur là, nous écoute là, non mais il y aurait un film à faire, vous voulez Charles Manson
Regardez, comme je suis habituée à travailler avec lui, vous voulez vendre un polar boulard en quelque sorte,
quelque chose comme ça.
Un polar boulard, Charlina, des mots étranges dans votre bouche. Yeah, mais non, ça pourrait être un très bon film pour la prochaine édition qui aura lieu la sixième cette année, la septième l'année prochaine. Ça y est, vous êtes parti comme Cannes maintenant.
Ouais, on espère. On se bat quand même pour faire pour pérenniser le projet, mais ouais, on est à bloc.
Bien.
On espère être à l'année prochaine.
Il faut se battre, Anastasia, toujours, ne jamais baisser les bras. Bien, alors on se romance Anastasia Arachman, on approche de la fin de cette émission, il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle, et j'y vais. Allez,
Ah, c'est douloureux.
Qu'est-ce qui se passe là? Bah, Henri, mon cochon, qu'est-ce que t'écoutes? Ah, le piggies des Beatles. T'es inquiet? Mais non, t'inquiète, c'est une vieille histoire, Charles Manson. Mais c'est bien. Tu écoutes l'émission? Quoi? T'as beaucoup aimé entendre parler du festival du film de fesses? Bah oui, tu m'étonnes. Et ça t'a donné des idées? Quoi? Tu veux faire le festival du film cochon? Et tu veux diffuser quoi, babe? Bah oui, c'est drôle. Bon, je suis venu chercher un vinyle. Tiens, Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle. Écoute bien les paroles, ça va te plaire.
Non.
Mais oui, mais je sais que t'aimes aussi les renards.
La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette. Je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
France Inter, Popopop, Antoine Decaune.
Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle, c'était en 1963 et aujourd'hui dans vos oreilles, grâce à Popopop. Anastasia Arachman, Laurence, Romance, je ne sais pas si vous le savez, mais donc...
On est KO debout.
Je vois, mais dans ma cave, j'ai un musée. Dans ce musée, je demande à tous mes invités ce qu'ils seraient prêts à y laisser. Que laisseriez-vous dans mon musée?
Je vais être magnanime. Moi, j'avais pensé à l'autobiographie de Charles Manson, parue chez Séguier, et absolument indispensable. Oui. Mais je vais vous épargner, en fait, pour vous faire plaisir, la discographie de votre fave, Bruce Springsteen.
Mais je l'ai déjà.
C'est gentil. Ah oui, donc.
Dans une édition limitée, peut-être.
Bon, alors, l'autobiographie de Charles Manson.
Mais en plus,
sans pitié, l'autobiographie de Charles Manson.
Très bien. Et vous, Anastasia?
Un vélo.
Un vélo. Parce que j'aime le vélo.
Qu'est-ce qu'il pourrait faire dans sa cave?
Et je me sens pas plus libre ailleurs que sur un vélo. Et en plus, ça fait du bien.
Très bien, mais je pense que vous savez que j'adore le vélo.
Je le vois tourner à vélo dans sa cave.
Ah oui, très bien, en écoutant du Springsteen, ça me
convient. Comme un hamster. Comme un hamster.
Je pense ça très bien. Bien, merci Laurence Romance. Je rappelle que Charles Manson par lui-même, c'est traduit par vos soins, c'est édité chez Séguier. C'est un livre absolument épatant. Merci Anastasia Rachman.
Merci Anastasia.
Le festival du film de Fès, ça commence donc dès demain à Paris. Merci à l'équipe de Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Pierre-Yves de Rolin, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Kélian Youssfi, notre stagiaire. Demain dans Pop.
Regardez-moi, je suis une Superman noire.
Idris Elba et Jason Statham viennent nous présenter le spin-off de Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos tuning sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast. Oh là, j'ai la tête qui tourne, moi. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, pop, sur Instagram et Twitter.
Merci.